La conférence des Séjours va traiter d'un thème très intéressant qui est celui de la loi du karma. Cette loi fait partie des lois qui dirigent notre univers, notre planète, la nature entière, la création entière. Nous ne les connaissons pas car nous avons perdu la connaissance de celles-ci, même si de nombreuses cultures l'étudiaient. Toutes les cultures étudiaient ces lois ainsi que d'autres lois cosmiques. Mais la méconnaissance de la loi, chers amis, n'empêche pas son accomplissement. Même si nous méconnaissons la loi, de toutes les façons, cette loi doit s'accomplir. C'est pour cette raison qu'il est très important d'étudier ces lois cosmiques qui nous gouvernent. Lorsque nous les connaissons, lorsque nous les appliquons, lorsque nous les comprenons, alors nous sommes capables de profiter de ces lois, de marcher d'accord à ces lois dans notre vie, et alors notre vie change. Nous voulons vivre heureux, n'est-ce pas? Nous recherchons toujours le bonheur, la liberté, la paix, nous souhaitons tout cela. Et c'est juste. Mais nous le voulons sans faire des changements intérieurs, sans faire des transformations intérieures, sans suivre ces lois et les violentes, c'est impossible. Nous devons savoir comment est constitué, comment est régi l'univers pour vivre en harmonie avec la nature, avec toutes les créés et avec tout ce qui existe. Nous retrouvons la loi du karma en Inde. Karma est un mot sanskrit qui signifie cause et effet. Si nous avons une cause, nous aurons donc aussi une conséquence. En effet, le grand Kabir Jésus, le grand maître Jésus nous disait, tout ce que nous aimons, nous le récolterons. Nous retrouvons dans la Bible les phrases suivantes. Ne vous trompez pas, Dieu ne peut être dupé, car l'homme récoltera tout ce qu'il a semé. Ne nous laissons donc pas de faire le bien, parce qu'en son temps, nous le récolterons, sinon nous nous évanouirons. Bien. Nous voyons là très clairement qu'il s'agit bien de cette loi, de cette même loi divine, la loi du karma, cette loi des causes à effet, la loi du karma. Cette loi, en Égypte, est représentée par Anubis. Ce personnage que nous voyons sur la diapositive, sur l'image, est le maître de la loi du karma pour les Égyptiens. On le voit dans les tombeaux des pharaons. Il se trouve aussi dans les livres des morts et est toujours représenté par cette belle peinture munie d'une balance qui représente justement ces lois. C'est une loi de compensation, une loi d'équilibre. Il ne faut pas la confondre avec la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Non, chers amis. Il s'agit plutôt d'une loi de compensation, une loi d'équilibre, une loi d'équilibre et une loi qui équilibre tous les événements cosmiques. Voilà ce qui représente cette balance. Elle est le symbole exact de cette loi représentée aussi dans les livres des morts des Égyptiens. D'un côté, nous voyons la plume de la déesse Mat égyptienne. La déesse de la justice et de la vérité. Et de l'autre côté, nous avons le cœur qui montre les actes du candidat, les actes du mort qui sont pesés avec une plume. Cette plume représente la justice et la vérité. Bien, si le plateau de la justice, si le plateau de la balance penchait en notre faveur, on pourrait voir une autre peinture où apparaissaient les deux crocodiles hippopotames dévorant l'âme de cette personne, conséquence de ses actes. Si nous semons des éclairs, si nous semons des éclairs, nous récolterons qui? Des tempêtes. On se plaint toute la vie. Nous n'avons pas de travail, nous avons des problèmes économiques. Notre épouse ne nous est pas fidèle. On a été abandonné, on nous a trompé, on nous a trahis, nos parents ne nous comprennent pas, etc., etc. Nous nous plaignons tout le temps. Oh, pauvre de moi, pauvre de moi. Comment je souffre dans ma vie, etc., etc. Et il nous arrive, chers amis, dans cette attitude, même de blasphémer et de dire que tout ce qui nous arrive est la faute de la divinité. Mais tout ce qui nous arrive dans la vie est un trou dans lequel nous nous trouvons et que nous avons nous-mêmes creusé. Nous avons nous-mêmes creusé ce trou dans lequel nous nous trouvons et il n'appartient qu'à nous de faire quelque chose pour nous en sortir. Il est très important que nous nous rendions compte que tout ce qui nous arrive actuellement dans la vie est la conséquence de ce que nous avons fait, et si nous ne modifions pas la cause, nous ne pourrons pas en modifier les conséquences. Si nous décidons de modifier la cause, nous pourrons alors oui, libérer une série de conséquences positives et transcendantales pour nous-mêmes. Cela vaut donc la peine de bien étudier cette loi. Pour comprendre la loi du karma, nous devons tout d'abord étudier d'autres lois cosmiques qui nous feront mieux la comprendre. Comprendre ce qu'est la loi du karma et comment il travaille. Nous allons parler de la loi qui est la loi de l'éternel retour. Retour de toutes choses. Cette loi stipule que tout revient à son point de départ, à son point d'origine, comme un cycle. Si nous observons un tour, si nous observons notre planète Terre, nous voyons qu'elle tourne autour du Soleil, n'est-ce pas? En 365 jours, une heure, une minute et une seconde. Et elle revient ensuite à son point de départ. Et nous fêtons alors le nouvel an. C'est la loi de retour. La Lune aussi, on revient toujours à son point de départ d'origine, et le Soleil est aussi en mouvement autour de son Soleil Alcyone durant 25.968 années terrestres, et revient à son point de départ d'origine. La nuit revient toujours, le jour revient toujours, les saisons reviennent toujours. Il y a le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, et de nouveau, nous avons le printemps qui revient. Toutes ces choses reviennent toujours. Bien, il serait curieux que nous, animaux intellectuels, erronément appelés hommes et femmes, bien sûr, nous ne soyons pas en mesure de revenir. Nous revenons aussi, bien sûr, mais il ne faut pas confondre ces retours avec la réincarnation. Ce sont des êtres divins qui se réincarnent, c'est-à-dire les maîtres, les anges, les êtres supérieurs comme Jésus de Nazareth, Bouddha, Quetzalcoatl, Krishna, Fuji, Zoroastre, etc. Voilà le niveau des êtres qui peut, ils, oui, se réincarner. Se réincarnent aussi ceux qui ont réussi à avoir une individualité sacrée. Se réincarnent les êtres qui ont complètement éliminé de leur intérieur leurs défauts psychologiques. C'est pour cette raison que les réincarnations étaient célébrées avec des fêtes religieuses très importantes du Tibet et de l'Inde, parce que la réincarnation est très différente de la loi de l'éternel retour. Nous confondons souvent la loi de l'éternel retour avec la loi de la réincarnation. Elle est vraiment très différente. Nous autres, mammifères intellectuels, nous pouvons aussi nous définir comme bipèdes, tricérébrés. Et étant donné que nous n'avons pas la conscience de savoir pourquoi nous sommes ici, quel est notre destin, quelle est notre mission, nous sommes condamnés à la peine de vivre. Nous tous qui vivons dans le monde entier devons revenir, c'est la loi du retour. Tout revient à son point de départ d'origine. Cette loi nous gouverne tous. Il y en a qui diront: mais moi, je ne me souviens pas de toutes de mes vies passées. Mais bon, Jean, est-ce que nous nous souvenons de ce que nous avons mangé il y a un mois, deux mois? Souvenons-nous de ce que nous avons fait lorsque nous avions 5 ans, 3 ans? Souvenons-nous de ce que nous avons fait lorsque nous avions 2 ans dans cette même vie? Eh bien, si nous ne nous souvenons pas de ce que nous avons fait il y a des années dans notre vie présente, alors comment pourrions-nous nous souvenir de notre existence? Nos sens ont complètement dégénéré. Nous avons perdu beaucoup de facultés parmi lesquelles se trouvent les souvenirs de nos anciennes existences. Par contre, nous pouvons évidemment récupérer ces facultés. Bien sûr, et ici, dans ces études, c'est un des buts. Essayer de se souvenir de nos anciennes existences parce que la loi du karma s'applique et a comme base la loi de retour. Si nous naissons et mourons sans cesse, il est évident que la loi du karma agit en fonction de cette loi de retour. Lorsque nous mourons, lorsque nous nous désincarnons, lorsque l'on a terminé notre temps de vie, circule alors, à travers notre corps, cette énergie que l'on appelle les rayons de la mort. Ces rayons de la mort nous réduisent à notre quintessence moléculaire, à notre synthèse. Et à l'instant même de notre mort, il se produit un schéma appelé le schéma électropsychique qui se projette dans les dimensions supérieures, dans les régions supérieures de la nature, et représente tout ce que nous sommes dans notre vie, qui vient de se terminer. Les alcooliques, les personnes adultères, les voleurs, les menteurs, les personnes ayant exploité les autres, les traîtres, les personnes ayant trompé les autres, etc., tout, absolument tout, est inscrit dans ce schéma électropsychique. Et ce schéma électropsychique vient saturer la cellule germe qui va former notre futur corps physique. Le spermatozoïde pénètre dans l'ovule en perdant sa queue. Il entre dans l'ovule qui est la cellule germe formée des chromosomes. Ces mêmes chromosomes sont formés par des gènes et la disposition des gènes donne un nouveau corps physique. Notre couleur des yeux, notre couleur des peaux, la couleur de nos cheveux, notre structure osseuse. Tout est contenu dans cette cellule germe, toute information requise. Nous la répétons, cette cellule germe est formée des chromosomes qui sont eux-mêmes formés par des gènes. Et ces gènes vont donner tout ce qui va être notre corps physique. Ces chromosomes se plaçant en accord avec notre schéma électrocytique que nous venons de former dans la termination de notre vie précédente. D'accord? Cette même schéma électrocytique est utilisé pour comme dessin, la carte pour former notre nouveau corps physique. Alors, le schéma électrocytique sature la cellule germe et les gènes s'adaptent en accord avec lui, et c'est ce qui signifie que le sentier de la vie actuelle, par exemple, est formé par les traces des sabots du cheval de la mort de notre vie passée. Vous voyez comment notre vie actuelle est liée à notre vie précédente? Alors, la vie et la mort sont connectées. Le contrôle des gènes est extrêmement difficile. L'étude des chromosomes est très difficile malgré les dires des scientifiques qui ont affirmé pompeusement avoir découvert le génome humain et que l'on connaît maintenant parfaitement tout ce qui concerne les gènes humains. Malgré cela, nous continuons à souffrir, nous continuons à être malades, nous continuons à nous battre, nous continuons à avoir des milliards de problèmes malgré tout ce que l'on peut dire. L'étude des gènes est très difficile parce qu'ils vivent à une grande vitesse, car ils se trouvent entre les mondes tridimensionnels que nous percevons et la quatrième dimension, la quatrième coordonnée. Et de ce fait, nous ne pouvons percevoir tous les gènes. Nous ne pouvons voir que 46 chromosomes, des 48 que possède l'être humain. Il existe donc 12 gènes qui sont invisibles pour la science moderne. Nous avons donc, beaucoup de choses encore à étudier, à découvrir. Bien. Dans tous les cas, le schéma électrophysique qui se projette lors de la mort sature les petites cellules qui va former notre futur corps physique et elle va se former en accord avec ce que nous avons été dans nos existences passées. C'est pour cela que de nombreuses maladies sont les conséquences de toutes que nous avons faites dans nos vies précédentes. Pourquoi? Parce que nous avons ces faiblesses dans notre corps physique actuel, alors la maladie arrive. Tout ce que nous vivons dans notre vie est en relation avec cela, et les personnes qui pensent qu'ils choisissent leur lieu de naissance, ou leur signe du zodiaque, ou leurs parents avec qui ils veulent vivre, se trompent. Ce n'est pas parce qu'ils ont décidé tout cela que tout va se passer ainsi, chers amis. Si une personne voit, si elle est alcoolique, qu'elle adore les vents, où croyez-vous qu'il souhaiterait naître? Eh bien, peut-être dans une fabrique de vin, par exemple, ou avec des parents très riches. Nous sommes Nancy. Faites. L'ego ne meurt pas avec la mort du corps physique, l'ego psychologique. Lorsque l'on meurt, on ne s'en rend pas de tout compte. Alors, avec quelle conscience pourrions-nous choisir notre nouvel lieu de naissance? Il est donc logique que notre lieu de naissance, notre signe du zodiaque, nos parents, etc., seront choisis pour nous. Tout est choisi en fonction de la loi du karma, et nous récolterons ce que nous avons sémé. Il existe, chers amis, différents types de karma. Il y a les karmas individuels qui concernent la personne, mais aussi existent les karmas familiales qui concernent un groupe de personnes, la famille. Les karmas régionales, les karmas nationales, les karmas mondiales, les karmas durs et de la loi de la quatance. Voilà les différents karmas existants et nous allons étudier chacun d'eux pour voir comment s'accomplit ces lois du karma, d'accord? Allons-y. Le karma individuel est celui qui s'applique à une personne, bien sûr. Nous naissons avec un signe du zodiaque particulier, correspondant à un certain type de karma en relation avec certains types de défauts psychologiques que nous possédons et qui sont très importants. Par exemple, si nous naissons sous le signe du lion, nous avons tendance à manifester à être très orgueilleux. Si nous naissons sous le signe de la balance, nous tendons à être plein de luxure, à être adultère. Si nous naissons sous le signe du capricorne, nous avons tendance à être très naïf. À chaque signe du zodiaque correspondent des tendances caractéristiques et le signe zodiacal qui nous est attribué correspond donc à celles que nous avons développées. Nous naissons avec des parents déterminés, dans un endroit déterminé, dans une région déterminée, dans un certain pays, en accord avec tout ce que nous avons fait dans le passé. Nous allons donc avoir un karma individuel, un karma attribué à chaque personne en particulier. Les maladies ne sont pas toutes dues au karma, toutes n'est pas karma. Si on ne fait pas attention à sa vie, si on n'a pas une bonne hygiène de vie, par exemple, si on ne fait pas attention à son hygiène buccale, on aura des caries et on perdra ses dents, n'est-ce pas? Ce ne sera pas à cause de nos vies passées, mais à cause de ce que nous faisons de notre corps. Mais il existe bien sûr des maladies qui sont en rapport avec ce que nous avons fait durant nos vies passées. Nous le répétons, toutes les maladies ne sont pas karmiques. Le maître Paracels nous parle de 5 types de maladies. Lens astral, lens naturae, lens dei, lens veneri et lens spirituel. Et dans ces types de maladies, le maître Paracels nous le dit bien, il y a le karma. Prenons l'exemple d'une personne qui mente tout le temps. Sur toute chose, eh bien, il engendrera un karma. Pourquoi? Parce que la vérité est la divinité. La vérité est ou appartient à l'être, à l'esprit. Et lorsque l'on mente, il se produit un court-circuit, une mauvaise connexion avec la vérité, avec l'être. Nous sommes tous une race de menteurs. Nous apprenons les mensonges à nos enfants. Voilà ce que nous faisons. Notre société se base sur les mensonges, et les mensonges sont de plus en plus fréquentes. Nous inventons de plus en plus de mensonges et cela nous fait perdre la connexion avec l'être, avec la vérité, avec la divinité. Et lorsque nous mourons, se projette un schéma électro-psychique déconnecté du divin, de la sagesse, de la vérité. Et lorsque l'schéma électro-psychique sature la cellule germe, il a comme conséquence la monstruosité. La monstruosité de naissance est due au fait que nous avons été de très grands menteurs dans notre existence passée. Souvenez-vous du conte de Pinocchio, et beaucoup de contes renferment des grands enseignements transcendentaux supérieurs pour les rendre publics, pour les donner au peuple en général, et les adaptant, bien sûr. Dans les contes de Pinocchio, son nez s'allonge à chaque fois qu'il dit un mensonge. Ceci se référant à la monstruosité qui naît du mensonge. Nous nous regardons dans un miroir et nous nous prenons pour des Apollons pour les hommes. Nous nous trouvons très beau et les femmes se prennent pour Diane, la chasseur, la chasseresse. Elle se trouve vraiment très belle. Mais si nous nous comparerions avec des êtres vivants sur Vénus, ou sur le Soleil, ou sur d'autres planètes, où les civilisations sont extrêmement avancées spirituellement, nous nous rendrions compte que nous sommes, en comparaison avec eux, très laids. Et ceci est dû au mensonge. Et si nous persistons dans les mensonges, alors viendra la monstruosité. Toute addition, nos parents, tous les éléments s'ajoutent. Cette personne est une menteuse, alors son schéma électro-psychique sera déformé, ses parents seront peut-être des personnes qui se droguent, car nous savons que la drogue affecte les gènes, ou des parents qui boivent beaucoup, parce que l'alcool aussi affecte les gènes. Alors, toutes ces combines, parents, karma, schéma électro-psychique, tout est lié. Et nous avons comme résultat la monstruosité de naissance, à conséquence de la mensonge. Ainsi, nous avons tous différents types de karma. Le karma de la médiumnité, le médium est une personne qui prête son corps à des entités négatives, à des entités de l'astral inférieur, à des, nous pouvons dire, des égaux ou des défauts psychologiques des personnes déjà désincarnées. Les maîtres n'ont pas besoin des médiums pour se manifester, car ce sont des maîtresses. Un ange ou un archange, ou le maître Jésus, ou un Bouddha, ils n'ont pas besoin des personnes imparfaites telles que nous en agissant comme des médiums pour se manifester. Alors, ce sont des entités négatives qui prennent possession du médium et pour cela, le médium doit avoir ouvert ses chakras ou centres magnétiques de façon inverse. Alors, les chakras peuvent s'activer positivement pour avoir des pouvoirs, des facultés positives ou de manière négative. Nous pouvons aussi ouvrir les chakras ou les activer de manière négative pour avoir des facultés négatives et, bien sûr, nous gagnons un karma pour affecter, pour utiliser nos facultés, nos capacités de manière négative. Eh bien, en clairvoyante, quelconque ne va pas être forcément un clairvoyant positif. Celui qui déclare l'être est obligatoirement un clairvoyant négatif, car les véritables clairvoyants positifs ne le disent pas jamais. Attention. Les chakras, donc, peuvent s'activer de façon positive ou négative. Les médiums activent ces chakras négativement et lorsqu'ils les font, alors peuvent entrer par ces chakras activés de manière négative des entités négatives. Le médium entre alors en transe et les possédés et les entités négatives peuvent alors se manifester et parler à travers de lui. Que se passe-t-il lorsque le médium meurt? Eh bien, le schéma électro-psychique va être celui d'un médium avec l'information des chakras activés de manière négative, de façon inversée. Et quand son futur corps physique va se former, le schéma électro-psychique de ce médium va saturer la cellule germe et à la naissance, les chakras du nouveau corps physique seront ouverts négativement. Alors, lorsque cette personne sera, je ne sais pas, fatiguée, faible, très énervée, ou qu'elle aura des fortes émotions négatives, elle aura une attaque d'épilepsie. Alors, l'épilepsie est le karma ou la conséquence de la médiumnité dans des vies antérieures. L'épilepsie est une maladie et les attaques épileptiques arrivent lorsque une entité négative entre comme un bouleur et prend possession du corps physique. Elle provoque les convulsions et malgré tous les efforts que l'on fait pour guérir l'épilepsie, il existe encore beaucoup de personnes atteintes d'épilepsie à travers le monde. malheureusement. Le diagnostic qui étudie l'agnose en travaillant très sérieusement, très patientement dans ses études, en méditant tous les jours, en priant sans cesse de façon scientifique, non comme des paroquettes, en répétant les prières qui font beaucoup d'œuvres de charité, et active leur chakra positivement avec les enseignements que nous leur donnons ici, modifiant alors la cause et donc la conséquence. Alors, ils peuvent s'agnir, ils peuvent remédier l'épilepsie. Fermer ces chakras négatifs et les activer de façon positive. Non pas avec des petites pierres ou des chocs électriques ou autre chose de ce genre, pseudo-ésotérique, mais avec énormément de travail sérieux et durant de nombreuses années, n'est-ce pas du tout facile. Il faut des années entières, peut-être des dizaines d'années de travail pour y arriver. Il se peut que grâce à tout ce travail, on arrive à guérir de l'épilepsie. Cela représente, chers amis, beaucoup de travail sérieux. Il faut changer la cause pour modifier la conséquence. Voilà le but des personnes qui étudient le karma. Parce que nous voulons modifier les conséquences et modifier qui? Les causes. Causes et conséquences. Nous modifions les causes. Nous modifions alors la conséquence. Cela représente beaucoup de travail et ne se fait pas d'un coup de baguette magique, non. Donc, voilà. Non. Nous devons modifier les causes pour pouvoir modifier les conséquences. Tout se mélange, chers amis, tout est lié. Les parents, les pays, tout est lié. Et se combine ensemble pour avoir comme conséquence la maladie. Le cancer est le résultat de l'abus de l'énergie créatrice qui nous a mis au monde. Quand une personne, homme ou femme, a eu beaucoup de conquêtes de nombreux partenaires, a regardé beaucoup de pornographie dans son vie intérieur, lorsqu'il ou elle a eu, comme on dit, une vie complètement débridée sexuellement, son corps vital sera très faible. Si c'est un homme, ses valeurs masculines, c'est amenuiseront, et si c'est une femme, ses valeurs féminines faibliront. Le schéma électro-psychique activé au moment de la mort psychique, de la mort physique, saturera la nouvelle cellule germée au moment de revenir à la vie. Le corps vital situé dans la quatrième dimension aura des carences telles qu'elles seront propices à un virus se développant également dans la quatrième dimension, qui aura des effets désastreux dans les cellules du corps physique et qui s'appellera le cancer. Donc, si nous travaillons sur la cause, nous pourrions changer l'effet, la maladie. Et de nombreux études diagnostiques ont guéri aussi du cancer, avec des années de travail sur eux-mêmes. Ils ont travaillé sur les causes qui l'ont généré, ce qui a permis de modifier les conséquences. Ce n'est pas seulement en travaillant sur ces enseignements, ce n'est pas seulement en assistant au cours. Il faut une transformation. Il faut faire beaucoup de bonnes œuvres. Il y a aussi des maladies comme la tuberculose qui se développent plus facilement chez des personnes qui, dans leur vie passée, ont été athées. Des personnes qui se sont éloignées de la divinité, qui se sont éloignées de tous les principes spirituels. La cécité de naissance a ses racines dans la cruauté. En effet, nous sommes tous bien cruels. La Sainte Inquisition fut le comble, le summum de la cruauté. Non seulement cela, mais nous sommes aussi cruels avec nos enfants. Oui, nous déclarons que nous travaillons pour eux. Mais nous les oublions et nous ne faisons pas attention à eux lorsqu'ils sont avec nous. Nous sommes devant la télévision, nous sommes sur Internet ou sur notre portable. Nous ne faisons pas attention à eux. Nous sommes hypnotisés par tout cela et nous ne prêtons pas attention à nos enfants. Nous sommes cruels avec eux. Nous les punissons. Nous les battons en déclarant que c'est pour leur bien. Nous oublions aussi nos petits animaux. Nous ne faisons pas attention à eux. Là aussi, nous sommes cruels. Nous les attachons, nous enfermons les oiseaux. Les tenir ainsi, enfermés, c'est de la cruauté. Vous ne croyez pas? Alors, enfermez-vous dans une chambre durant toute la journée. Vous y mangez, vous y faites vos besoins, vous vous lavez et un géant de viande, vous regardez avec des grands yeux. Comment vous vous sentirez? Est-ce que c'est une bonne chose? C'est de la cruauté avec les animaux, envers les animaux. Il y a beaucoup de types de cruauté en nous, énormément. Quand nous oublions nos parents, n'est-ce pas de la cruauté? Nous les voyons une fois par an, nous n'avons jamais le temps, nous sommes très occupés, très modernes. Mais nous avons le temps pour la médicence, nous avons le temps pour aller boire un match de football. Nous avons le temps de regarder les séries à la télévision. Mais pour aller boire nos pauvres parents, nous n'avons pas le temps. Et cela, c'est de la cruauté. Nous nous trouvons par exemple devant la télévision, avec notre épouse, et apparaît une artiste féminine. Et nous la comparons avec elle. Regardez, regardez-vous, regarde-toi, comment elle est belle, elle. Et nous ironisons. N'est-ce pas de la cruauté? C'est de la cruauté de la pire espèce. Nous sommes tous très cruels, tous. Et lorsque nous exagérons dans la cruauté, lorsque nous sommes chasseurs, toreros, lorsque nous divertissons le public en faisant du mal à d'autres personnes, comme les boxeurs, etc., alors vient la conséquence. Et cette conséquence, c'est la cécité de la naissance. Voilà les karmas individuels. Il y a les karmas familiales. Les karmas familiales est celui que l'on donne à un groupe de personnes qui vivent dans une famille. Les familles se regroupent et ont tous un karma identique. Nous avons chacun un karma individuel, mais le karma familial est un karma qui concerne un groupe de personnes. Parfois, nous avons un père ou une mère alcoolique. Toute la famille souffre. C'est incroyable. Cette souffrance que nous donnons à nos enfants lorsque nous sommes alcooliques. Dans ce cas-là, les enfants sont en train de payer un même karma et l'épouse ou l'époux aussi sont en train de payer un karma familial. C'est à cause de ce que nous avons fait dans une vie passée, nous tous. Nous devons récolter dans cette vie ce que nous avons semé dans des vies précédentes. C'est étonnant, mais faites l'expérience. Lorsque nous étions enfants ou adolescentes, que rapprochions-nous principalement à nos parents? Maintenant que nous sommes des adultes et que nous avons des enfants, observons-nous. Nous agissons et nous sommes comme nos parents. Nous faisons tout ce que font nos parents. Êtes-vous qui est jeune? Notez dans un petit carnet ce que vous ne pouvez plus supporter de la part de vos parents. Lisez ce carnet dans quelques années et vous vous rendrez compte que vous êtes et agissez de la même manière que les faisaient vos parents. Nous ne nous en rendons pas compte, mais il y a la réalité des choses et il existe bien un karma familial qui réunit un groupe de personnes, le karma économique d'une famille. Quand il n'y a rien à manger, quand on ne peut pas s'habiller, voilà un karma familial. Toutes les personnes qui forment cette famille ont un karma identique. Nous ne naissons pas dans une famille comme cela, par hasard. Ce n'est pas une erreur. Nous naissons dans cette famille parce que c'est ce que nous récoltons à cause de nos actes dans des vies passées. Le karma régional est un karma donné à une région, bien sûr, à une population. Il y a des populations qui vivent parmi les ordures, des populations qui n'ont pas d'eau, des populations qui ne possèdent pas des conduits d'eau usés. Ce sont les conséquences au niveau régional des causes passées. Voilà ce qu'est le karma de type régional. Le karma national, le karma d'un pays, où le gouvernement ne donne rien, avec des partis politiques qui, quel que soit leur bord, sont toujours les mêmes. Un jour, en allant au marché, une personne âgée nous disait, c'est le même enfer, ils n'ont changé que les diables. Il nous disait cela lorsqu'il y a eu un changement de président dans notre pays. C'est le même enfer, sauf le diable a changé. Eh bien, c'est exact. Lorsque les gouvernements ne donnent rien au peuple, c'est ce que nous tous, dans notre pays, possédons, cette note vibratoire. Nous avons un karma de type national. Le karma national est celui qui est donné à tous un pays. Ce que vit un pays en général, avec les gouvernements, les inondations, la dévaluation de la monnaie, les guerres, ce genre de karma fait souffrir tout un pays. C'est le karma de tous ceux qui font partie de ce pays. Un karma national que nous sommes tous en train de payer parce que nous avons tous ces traits psychologiques. Ces mêmes actions que nous avons faites dans le passé et que nous méritons. Ce n'est pas en tuant nos gouvernants ou en faisant des coupes d'État que nous allons résoudre les problèmes d'un pays. C'est en changeant chacune des personnes qui les composent. C'est ce que chaque personne se transforme intérieurement. Nous sommes dictateurs au sein de notre propre famille, comme ce président qui se trouve à la tête de notre pays. Nous sommes comme nos gouvernantes, ceux qui nous dirigent ne sont que l'extension de l'individu. Si l'individu change, alors ceux qui nous gouvernent changeront. De ce fait, le pays changera. C'est ainsi. Nous avons donc un karma national. Cela ne veut pas dire qu'il faut être conformiste. Non. Ce que nous disons, c'est que la violence ne résout rien. La violence engendrerait encore plus de violence et la haine engendrerait encore plus de haine. La solution pour un pays, c'est que chaque personne se transforme, que chaque personne commence à mettre son petit grain de sable et en se transformant lui-même. Voilà. Il y a aussi, bien sûr, le karma mondial. Le karma mondial est celui qui est donné à une planète entière. Il existe des personnes qui vivent sur la planète Vénus. Ne pense pas qu'elle est vidée. La planète Mars a aussi des habitantes. Ils ont une civilisation extraordinaire, très avancée, spirituellement et dans la partie technologique, scientifique. Sur Vénus, par exemple, l'argent n'existait pas. Les habitants de Vénus ne travaillent que 12 heures par jour. 12 heures par jour. Ce sera bien, n'est-ce pas, qu'ici sur Terre, nous faisons les mêmes. Nous faisons les mêmes. Au lieu de travailler 8, 10, 15, 16 heures par jour pour pouvoir payer tous nos facteurs. Sur Vénus, on ne travaille que 12 heures par jour. Et c'est tout. Et en travaillant seulement 12 heures, ils ont droit à tout ce qu'ils ont besoin. Pourquoi ne sommes-nous pas nés sur Vénus? Là-bas, tout est très facile. Pourquoi sommes-nous nés ici, sur cette planète Terre, où il y a le chaos? Parce que tous ceux qui naissent, pardon, parce que ceux qui naissent ici sur Terre, tous, nous sommes plus ou moins identiques. Nous avons plus ou moins les mêmes défauts de type psychologique. Alors, comme conséquence, nous sommes placés pour vibrer ici dans la Terre et pas sur Vénus. Les guerres mondiales sont un karma donné au monde entier. Les réchauffements climatiques, les glaciers qui fondent, l'atmosphère contaminée, les rivières contaminées, l'eau qui se raréfie, Tout cela est le résultat de ce que nous-mêmes avons aimé. Ce n'est pas autre chose. C'est le karma qui est donné à une planète entière. Il y a aussi le karma dur. Le karma en action. Le karma qui ne peut pas être payé avec des bonnes œuvres. Regardez comme c'est remarquable. Cette conférence n'est pas fataliste, chers amis. Bien, et vous avez le karma et votre destin et c'est tout. Il n'y a rien à faire. Non, non, non. Ces conférences, c'est pour nous aider à nous corriger et changer les cours de notre existence ici et maintenant. Le karma est comme une balance. Si le plateau s'équilibre, si les bonnes œuvres sur l'un des plateaux et les mauvaises actions sur l'autre s'équilibrent, il ne se passe rien, car les bonnes actions annulent les mauvaises et les mauvaises annulent les bonnes. Il ne se passe rien, ils sont équilibrés. Si le plateau de la balance se trouve pesé, les actes négatifs est plus lourd, alors vient les douleurs, la maladie, les souffrances. C'est la conséquence de ce que nous avons fait. Et si le plateau où se trouvent les bonnes actions pèse plus lourd, il va y avoir donc un équilibre. Cela veut dire que si nous faisons de bonnes œuvres, de bonnes actions, les mauvaises que nous avons faites bonnes annulèrent. Ce que nous avons fait de mal va s'annuler. Il faut donc faire de bonnes actions tout le temps. Beaucoup de bonnes actions. Oubliez de les compter. Faites de bonnes actions. Le karma peut donc être payé avec de bonnes actions. Sauf les karmas durs. Celui qui viole une femme, par exemple, ne peut pas payer son karma avec de bonnes actions. Il faut qu'il soit payé avec des souffrances et des douleurs. Beaucoup de souffrances et beaucoup de douleurs. Imaginons que nous avons été un très grand tortionnaire. Nous voulons tous avoir été un Bouddha dans son vie passée, Jeanne d'Arc ou quelqu'un de très important. Eh bien non. Nous avons été une personne quelconque. Nous avons peut-être été un tortionnaire, un bureau. Pensez-vous qu'un agent arraché des ongles, torturé, bercé du plomb fondu sur des personnes, pensez-vous que cela puisse être payé avec de bonnes actions, juste comme ça? Est-ce que vous pensez qu'avoir pendu des gens sous-dessous d'un précipice, que cela puisse être payé par de bonnes actions? Eh bien non, bien sûr. Ces actes doivent être payés avec de la douleur, avec des souffrances. C'est là le karma dur. C'est un karma qui n'est possible d'être négocié. Ce karma en action ne peut pas être payé avec de bonnes actions. Oui, on peut les payer, mais l'unique façon de les faire est de l'annuler, c'est en éliminant la cause qui l'a produite. Le karma est comme un médicament qui nous est donné pour nous guérir moralement. Et si on est guéri, eh bien, on n'a plus besoin des médicaments, n'est-ce pas? Mais si on ne guérit pas, on en a encore besoin. Si on élimine les moi qui ont engendré les mauvaises actions et les karmas, alors on pourra l'annuler en éliminant les défauts qui l'ont causé et en faisant beaucoup de bonnes actions. Il y a aussi une loi qui s'appelle la loi de la quatance. C'est un karma de type supérieur. C'est un karma qui est donné aux maîtres, lorsqu'ils ont commis des erreurs. Eh bien, oui. Les maîtres peuvent aussi se tromper et commettre des erreurs. Ils ne sont donc pas soumis à la loi du karma, mais à la loi de la quatance. Un karma de type supérieur. Nous autres aussi, qui ne sommes pas des êtres supérieurs, nous, qui sommes des êtres inférieurs, avons aussi ces karmas lorsque nous commettons des erreurs de type supérieur. Nous sommes aussi soumis à cette loi de la quatance. Lorsque nous sommes médisantes, lorsque nous nous occupons de faire des affaires des autres façons négatives, lorsque nous provoquons, par exemple, la séparation d'un couple, nous sommes soumis à cette loi de la quatance à cause du mauvais usage du verbe, de la parole. C'est un karma de type supérieur. On pourrait dire que les lions de la loi se combattent avec la balance. Il faut méditer sur cet axiome. La loi est représentée par les lions, qui est le roi des animaux. Au-dessus de la loi, il n'y a rien. Et on combat les lions avec la loi de la balance. L'unique manière de pouvoir combattre les lions de la loi, c'est-à-dire arrêter de souffrir, arrêter d'être malade, nécessaire de se battre économiquement, c'est avec la balance, en faisant des bonnes actions pour pouvoir pallier ces dettes karmiques. Le karma n'est pas une loi fataliste. Nous apercevons une personne qui meurt de faim. C'est son karma. Ne l'approche pas, nous disons. Non, mes amis. Il faut faire des bonnes actions, des bonnes œuvres. Beaucoup, mais beaucoup de bonnes œuvres. D'accord? Le mieux que puisse faire une personne, c'est de faire beaucoup de bonnes actions. C'est le meilleur travail qu'elle puisse faire. La Bible nous dit, prends patience et fais des bonnes œuvres. Et tu verras que tu pourras en raconter les résultats. Nous devons tous faire des bonnes actions pour pallier nos dettes. Nos enfants ne sont pas coupables de notre vie. Nos parents ne sont pas coupables de ce que nous sommes. Nous sommes les architectes de notre propre destin. Bien sûr, ce destin, nous l'avons à la base par rapport à ce que nous avons fait dans notre vie passée. Mais en faisant de bonnes actions, nous pouvons modifier tout notre destin. Mais il faut aussi savoir, et cela est très important, qu'on ne paye pas du karma à cause du mal que l'on a fait. Mais on ne paye aussi pour les biens que nous n'avons pas fait lorsque nous pouvions le faire. Oui, notre devoir est d'aider. Notre devoir est d'aider notre prochain. Donner à boire à celui qui a soif. Donner du pain à celui qui a faim. D'enseigner à quelqu'un qui ne sait pas. Voilà ce que nous devons faire. Accomplir notre travail. Nous sommes malades. Eh bien, occupons-nous des malades qui sont encore plus malades que nous. Si nous sommes dans les besoins et n'avons pas d'argent, et dont ceux qui sont dans une situation encore pire que la nôtre. Si nous n'avons pas beaucoup à manger, partageons ce que nous avons avec ceux qui sont encore pires que nous. Ce n'est seulement qu'ainsi que l'on peut payer son karma. On paye aussi du karma lorsqu'on ne fait pas ce que l'on devrait faire, car notre devoir est de faire les biens lorsqu'on peut les faire. Parce qu'on s'est fait du karma, lorsqu'on ne fait pas les biens que l'on pourrait faire. Une autre loi cosmique que nous devons connaître et étudier pour les biens comprendre la loi du karma est la loi de retour. C'est la loi de la récurrence. Nous avons vu la loi de retour et à présent, nous allons parler de la loi de la récurrence. La loi de la récurrence fait que tout se répète en plus des conséquences bonne ou mauvaise, des causes passées. Que signifie ceci? Eh bien, si dans le passé, dans une vie antérieure, nous avons commis un délit, dans cette vie présente, toutes les scènes vont se répéter. Mais maintenant, nous serons victimes du délit, c'est-à-dire avec ses mauvaises conséquences. Si dans une vie passée, nous avons vécu avec une personne déterminée. Dans la vie présente, nous vivrons avec la même personne. C'est la loi de la récurrence. Tout va se passer. Tout se répète. Notre conjoint, nos parents, ils sont tous près de nous à chaque existence. Car tout se répète avec des conséquences bonnes ou mauvaises. C'est le karma. Les faits se répètent avec les mauvaises conséquences. Je ne sais pas s'il vous est arrivé de vous trouver dans un endroit et de penser « Mais je connais cet endroit. Je suis déjà venu ici. » C'est une réminiscence de ressentir que l'on a déjà été dans cet endroit Et il est évident que nous avons déjà été là, à cet endroit même, car les endroits où nous avons vécu, où nous avons été, se répètent. Nous revenons dans des endroits où nous avons vécu dans une vie passée. Nous venons à connaître des personnes que nous avons connues dans une vie passée. Ah, il me semble que je connais déjà cette personne. Il me dit quelque chose. Nous pensons, cela nous passe. En vérité, nous ne l'avons jamais vue, mais c'est que dans son vie passée, nous avons vécu avec elle. Nous l'avons connue. C'est la loi de la récurrence. Nous vivons donc dans une spirale de vie formée des cercles qui montent ou qui descendent. Si nous avons fait de bonnes actions, nous nous retrouverons sur un cercle plus haut dans la spirale de vie. Et si nous avons commis de mauvaises actions, nous serons sur un cercle plus bas dans la spirale de vie. Cette spirale est représentée comme l'escargot de l'existence par les Mayas, les Aztèques et dans toutes les cultures. Nous pouvons monter dans cette spirale de l'existence ou bien descendre. Imaginons une personne qui aide son prochain, qui aide les autres. C'est une bonne personne. Elle traite bien ses enfants, ses voisins, ses parents. Elle ne les oublie pas. Dans sa prochaine vie, elle naîtra dans une spirale de vie plus haute. Elle a peut-être des capacités pour faire des études. Peut-être qu'elle est enseignante. Elle est peut-être médecin. Elle aide beaucoup ses semblables dans cette nouvelle vie. Elle ne s'enrichit pas du tout avec tout cela. Elle a les droits de vivre bien, mais ne gagne pas d'argent avec ses médicaments. Elle guérit et soigne vraiment beaucoup de personnes sans faire de distinction, sans regarder qui peut la payer ou pas. C'est un bon samaritain. Que va-t-il se passer dans sa prochaine existence? Eh bien, tout va se répéter, mais dans une spirale plus haute. Supposons qu'elle a beaucoup d'argent et qu'elle devient quelqu'un d'important en politique. Elle pourrait aider beaucoup de monde en étant à ses postes. Être un gouvernante n'est pas un délit, mais si elle trompe les gens, si elle s'exploite, si elle en vend de son pote, qui n'ont pas lieu d'être, et aggrave la situation d'un pays, eh bien, dans sa prochaine existence, elle naîtra dans une spirale de vie plus basse. Et si elle fait encore plus de mal, la spirale sera encore plus basse. Et si elle continue, la spirale sera encore plus basse, et toutes les faits vont se répéter, mais dans son position dans la vie, plus basse. Pour mieux comprendre cette loi, voyons le destin d'un individu. Supposons que Jean-Pierre est en train de vivre. Il se marie à 20 ans. À 30 ans, il a une dispute. À 40 ans, nous voyons dans les colonnes à gauche. À 40 ans, un accident. Et à l'âge de 50 ans, il meurt. Disons que c'est le destin d'une personne lambda. Dans sa prochaine existence, il se mariera à 20 ans. Aura une dispute à 30 ans, à 40 ans, un accident, et à 50 ans, il mourra. Ainsi est la vie, d'accord? Bien. Il y a des personnes qui ont des vies si répétitives qu'elles ont eu les mêmes emplois durant toutes leurs différentes vies. Elles ne les connaissent par cœur. Et c'est pour cela que depuis toute petite, elles connaissent tous les instruments médicaux, par exemple, ou elles connaissent tous les capitales d'un pays, parce qu'elles ont toujours fait la même chose durant plusieurs vies. Les fameux enfants prodiges ne sont pas si prodigieux. Tout simplement, ils répètent ce qu'ils ont toujours fait. C'est tout. Il y a des personnes qui disent Je vais me marier avant 11. Et ils se marient avant 11. Ils sont par exemple sûrs qu'ils seront en dispute à 30 ans. Et ils l'ont. Ils ne sont pas clairvoyants, non. Ils répètent tellement leurs vices, toujours les mêmes, qu'ils les connaissent par cœur. Mais, en plus, s'ajouteront les conséquences bonnes ou mauvaises à chaque fois. Voyons notre exemple pour que vous compreniez bien cette loi. Supposons que selon notre exemple, Jean-Pierre se marie avant 11, mais que depuis toute jeune, c'est un mauvais fils. Il ment, il vole, il ne veut pas étudier, il n'obéit pas à ses parents, il est paresseux. Donc, avec la loi de la récurrence, il se remarie avant 11. Mais comme c'est un diable, par la loi d'affinité psychologique, il ne va pas avoir comme épouse un ange. Ces femmes qui se plaignent d'avoir un mari qui est un vrai diable. Eh bien, mes hommes, on offrait un diable à une diablesse. Et une diablesse à un diable. Voilà, c'est tout. Si nous sommes des diables, nous serons une diablesse et aussi des petits diables. Il faut beaucoup les aimer et les protéger aussi pour ne pas les laisser devenir des petits diables parce que c'est ce que nous sommes. Avec cette loi de la récurrence, nous nous remarions et nous avons une ou un partenaire qui sera une affinité avec nous, avec ce que nous sommes réellement. Supposons que ce mariage n'est pas important pour Jean-Pierre. Il trompe sa femme, il vole, il trahit. À 30 ans, cette dispute qu'il a eue dans son vie intérieure s'est reproduite. Mais cette fois, il se casse en brasse. Il continuait à faire beaucoup de mal. Il entre dans le monde de la drogue, il ment, il tue. À 40 ans, l'accident qu'il avait eu dans son vie passé s'est reproduit, alors qu'il avait survécu. Maintenant, sa vie s'arrête et il meurt. À 40 ans. Comme conséquence de ses mauvaises actions. Voilà le destin d'un individu. Nous répétons toutes avec les mauvaises et les bonnes conséquences. Mais voyons les cas contraires. Ce qui est très rare de nos jours. Supposons que Jean-Pierre, sa conduite vient depuis son enfance. Il n'est même pas, il est dans sa maison, il n'est pas paresseux, il aide dans les travaux de la maison, il étudie, il est intelligent, il est gentil et bon avec tout le monde. Étant jeune, il ne gaspille pas ses énergies créatrices, il ne trompe pas les jeunes filles, il ne fornique pas, ne commet pas d'adultère. Il se comporte correctement. Il y a accès à cet enseignement supérieur qu'est l'arnos. Il apprend à canaliser ses énergies. Quand il a 20 ans, bien sûr qu'il se mariera, mais il aura une épouse qui lui correspond et s'il la respecte et lui est fidèle. S'il pratique ensemble une sexualité transcendantale, s'il aide l'humanité et s'il élimine les défauts psychologiques à 30 ans, il aura une dispute. Oui, oui, tout se répète. Il aura une dispute, mais pas identique à celle de l'ancienne vie, dans un bar par exemple. Mais comme la loi de la récurrence existe, il pourra être mis dans une situation où il devra défendre sa femme ou ses enfants, et dans cette dispute, il ne perdra pas son bras. Il sera simplement blessé sur cette même brasse. La récurrence se répète, mais la conséquence a changé. Alors, il continuait à aider les gens. Il est un exemple à suivre. À 40 ans, il y a un accident, une nouvelle fois, mais cette fois, si il ne meurt pas, il est blessé. Mais c'est tout. À 50 ans, il ne meurt pas non plus. Il est mis dans une situation dangereuse, certainement à cause de la loi de la récurrence, mais il ne mourra pas cette fois-ci. Il aura peut-être une maladie, mais il vivra longtemps, peut-être jusqu'à 60 ou 70 ans, parce que l'homme est l'architecte de sa propre vie. Nous avons tous un destin de vie déjà écrit, mais on peut le modifier, on peut le transformer. Il faut apprendre à changer, à faire de bonnes actions pour se transformer et arrêter de se plaindre. Nous demandons tous que nos enfants nous obéissent, mais nous ne devons pas obéir à nos parents. Nous demandons à être guéris, mais nous ne sommes pas capables de guérir les autres, d'aider les autres à se guérir. Comment voulez-vous que l'on sorte un enfant de prison si nous ne sommes pas capables de voir la souffrance d'autrui? Alors, faites de bonnes actions pour payer vos dettes. Dans cette action est donnée la façon de faire pour transcender la loi du karma. Nous devons nous corriger. Nous devons nous transformer nous-mêmes. Nous devons voir la souffrance de l'autre, penser aux autres, et non pas toujours penser à soi-même. Toujours à soi-même. Il faut être capable de voir la souffrance de ses autres, de voir combien ils souffrent. Et non seulement cela, mais aussi être capable d'accomplir des actes concrets et définitifs pour les aider. Voilà ce dont nous avons besoin. Ainsi, nous pourrons transcender cette loi du karma. Bien, mes amis, c'était notre thème d'aujourd'hui. Comme bibliographie, nous avons les livres des morts, les livres Erradant le mystère et les livres Au-delà de la mort, par le maître Samael Ombeor. Ces livres se trouvent sur notre website, dans la section des livres, dans la section en français, dans tous les formats. Vous pouvez nous rendre visite dans notre web page, notre website www.samaelnosis.net dans la section française. Mes amis, merci beaucoup pour nous accompagner aujourd'hui. Ayez-vous un très bon week-end.